Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Salut les graveleux, vous en avez fait quoi de vos VTT? Il est 14h, c'est Rayon libre et nous ne sommes pas en direct. Cette semaine, le gravel est mort, vive le VTT. Mais avant de passer à l'histoire du gravel et du VTT, je les démercie comme d'habitude. Cette émission est en partenariat avec wheels.west-france.fr. Merci aussi à Abel Guggenheim, les invités qui viennent se raconter. Merci à vous, auditeurs, auditrices, qui nous écoutez, qui partagez, qui commentez. Et oui, il faut partager, il faut liker, réagissez, parce que comme dit Jean-Philippe, vos réactions manipulent les algorithmes, et c'est cool de manipuler les algorithmes. Merci aussi à ceux et celles qui font vivre cette radio, Cause Commune, c'est votre radio, un peu Rayon Libre, c'est votre émission aussi. Vous l'avez entendu, vous aussi, cette phrase servie à qui veut l'entendre, le gravel, c'est le vélo à tout faire, une sorte de promesse, un peu fourre-tout, tu ne sais pas de quel vélo tu as besoin, eh ben prends-toi un gravel. Non seulement c'est le vélo dont tu as besoin, mais en plus celui qui te fait envie, et cerise sur le gâteau, avec un gravel, tu peux tout faire, te prends pas la tête, frère. Mais alors, si le gravel, c'est le vélo à tout faire, pourquoi dans le segment du gravel, il y a les gravel race, les gravel endurance, les gravel itinérance, les gravel de voyage, les gravel de single. Si le gravel était vraiment un vélo à tout faire, alors il n'y aurait pas tous ces sous-segments dans le segment du gravel. Mais oui, tu comprends, nous expliquons aujourd'hui, il y a gravel et gravel. Bref, s'il n'y a pas embrouille, il y a de quoi être embrouillé. L'arrivée du gravel annonçait la mort du VTT. Et si c'était l'inverse qui était en train de se passer, si le gravel était ou devenait un marchepied vers le VTT? Je vais vous faire une confidence. Oui, j'ai cédé aux sirènes du gravel. Oui, j'adore. Entre nous, combien de fois me suis-je dit en vrai, dans ces singles, dans ce bourbier, dans ce pierrier, je serais bien plus serein, rapide, confort et souriant, parce que oui, souriant c'est important, sur un bon vieux hardtail ou tout suspendu, un bon vieux VTT. Au-delà de ma petite envie personnelle de me remettre au VTT, le gravel a eu cette vertu. Probablement secouer le monde du VTT, le circuit mondial a été racheté par Warner Bros. Le VTT doit redevenir du spectacle, télévisuel, feuilletonnable. Et il y a des marques comme Origin qui, sans abandonner le gravel ou la route, croit dur comme fer au retour du VTT, du cross-country pour être précis. C'est pour cela qu'ils lancent leur officiel, leur team compétition avec deux coureuses, deux coureurs, deux team managers et au micro, qui est-ce que je reçois? Eh ben, je reçois l'un des deux team managers. Causons donc VTT un peu. Bonjour Mathieu Durand, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, là, nous sommes chez Origin, dans le Nord.
Oui, bonjour.
Et vous êtes l'un des deux team managers de cette équipe qui est en train de se créer.
Voilà, c'est tout à fait ça, avec Maxime Marotte. Qui est avec moi dans cette aventure.
Donc un ancien coureur.
Un ancien très bon coureur même.
Et vous alors Mathieu, racontez-nous quand même, parce que je sais que vous avez un parcours qui est un peu particulier. Souvent dans cette émission, on parle de reconversion dans le monde du vélo. Vous, au départ, vous n'étiez pas du tout dans le vélo, vous étiez juriste, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Avocat ouais. Même.
Oui, voilà, j'étais juriste principalement, j'ai travaillé un petit peu à Paris, après je suis vite allé travailler dans le monde du vélo, chez Comensal, ouais. Au tout début.
Vous vous occupiez déjà de la course et de la compétition?
Non, j'étais vraiment encore juriste à cette époque-là, ouais. Mais ça a été une expérience formidable. Et petit à petit, voilà, toujours très 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 attiré par la compétition, j'ai cherché à me rapprocher de plus en plus des équipes et des pilotes. Ouais. Donc j'ai fait agent pendant un moment, notamment pour Maxime pendant une quinzaine d'années avec qui je co-manage ce team. Ouais. Et pour d'autres athlètes, jusqu'à arriver au management d'équipe depuis à peu près une petite dizaine d'années.
Et alors là, vous êtes en train de lancer from scratch une équipe avec Origin. Par où on commence quand on est team manager et qu'on lance une équipe de zéro?
Et c'est pas évident parce que faut réussir à voilà construire une maison de rien, donc faut trouver toutes les bonnes briques pour réussir à les imbriquer entre elles.
Mais avant les briques, faut les fondations.
Voilà, les fondations, on commence tout d'abord par un budget en général. Ouais. Voilà, on sait à peu près combien est-ce qu'on doit aller chercher en termes de revenus financiers, donc de partenariats.
Évidemment, hein, j'ai posé la question de combien il faut pour monter une équipe en termes de budget. Mathieu m'a donné la réponse et puis après, il m'a demandé de couper au montage la réponse. Donc, je suis le seul à savoir combien il faut sur un an pour monter une équipe de VTT, de cross-country. On passe à la suite. Vous, Maxime, vous quittez une grande maison pour venir monter ce projet Origin?
J'étais chez Specialized jusque-là. Ouais. Ça a été une aventure fantastique. Vraiment, j'ai passé d'excellents moments là-bas. On a un super partenariat. Et voilà, après, l'idée de cette aventure avec Maxime m'a vraiment
excité.
Voilà, donné beaucoup d'envie.
Et c'était quoi? C'était l'idée de monter une équipe de zéro? C'était des personnes? C'est des rencontres? C'est un projet? C'est quoi qui vous fait basculer?
C'est un peu tout ça. C'est aussi, voilà, avant j'étais dans la discipline de l'enduro, qui est en perte un petit peu de visibilité.
Oui.
Et il y a eu cette opportunité-là qui est arrivée vraiment au très très bon moment, et une histoire d'humain aussi.
Parce que ce qu'il faut raconter aussi aux auditeurs, auditrices qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qui se passe dans le monde du VTT, là aujourd'hui l'équipe Origine elle est sur le cross-country. Est-ce que vous pouvez expliquer quand même vite fait à nos auditeurs, auditrices la différence entre l'enduro et le cross-country?
Alors il y a trois disciplines principales en VTT. On a la descente,
oui.
Exactement comme ce qu'on peut retrouver en ski, c'est-à-dire oui. Ils partent d'en haut, ils arrivent en bas, le plus vite à gagner.
Oui.
L'enduro, c'est la même chose, on va dire, sauf qu'on répète ça 5-6 fois dans la journée sur 4-5 montagnes différentes.
Et qu'il faut monter là-haut à la force des mollets.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Alors que la descente, on monte en télésiège, voilà, en télécabine,
en enduro,
peu importe.
On peut monter en télécabine, on va dire aussi, mais allez, il y a 3/4 du parcours qui sont à la pédale.
Ouais.
En cross-country, c'est le plus simple, hein. C'est-à-dire que vous partez sur une ligne de départ à une centaine de personnes, et le premier qui arrive, il gagne. Vous faites des tours. Ça ressemble au cyclo-cross dans son format. C'est un peu plus long, c'est deux fois plus long.
Oui. Et parce qu'une manche de cyclo-cross, c'est une
40 minutes.
Oui, c'est ça, 30 minutes.
Là, on est plus sur 1h20, 1h30.
Et ça, c'est un format qui est olympique.
Tout à fait, que vous avez sûrement pu voir aux Jeux de Paris cet été avec du grand spectacle.
D'accord.
Et avec des parcours quand même beaucoup plus techniques, on va dire.
Ouais.
Beaucoup plus de franchissements, beaucoup plus de choses comme ça.
Quand on quitte, vous venez de le dire, une maison qui s'appelle Specialized et qu'on arrive pour monter une équipe avec un vélo qui est fourni par Origine, c'est important le matos quand on se lance dans le monde du vélo, ou même dans le monde de la compétition VTT?
C'est primordial.
Ouais.
Ça fait... Même les pilotes, si vous voulez, vont choisir leur équipe en fonction du matos qu'on est en capacité de leur proposer. Donc c'est clairement quelque chose de super important. Et on ne peut pas gagner une Coupe du Monde si on n'a pas le vélo qui suit.
C'est quoi un vélo performant ou un vélo qui gagne?
Il va y avoir plusieurs critères. Il va falloir un vélo réactif, nous, qui est capable de rendre un maximum le rendement du pilote, parce que ça va jouer quand même à la différence physique.
Ouais. Donc un vélo, mais c'est aussi un vélo qui fatigue moins, parce que c'est sur des séances, vous disiez, c'est deux fois plus long, c'est des courses qui durent 1h30, 2h.
Et un vélo qui est capable d'aller très vite partout, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un enchaînement de racines en sous-bois ou un rock garden, comme on dit, faut que le vélo aille le plus vite possible, donc forcément suspendu à l'avant, à l'arrière, et qu'il soit en capacité de gommer un maximum le terrain pour aller le plus vite possible.
Et pour préserver le pilote.
Tout à fait.
Ouais. C'est quoi l'ambition de l'équipe Origine, ou les ambitions que vous avez, vous, aujourd'hui?
Les ambitions sont de très haut niveau, hein. Au vu des pilotes qu'on a recrutés, on a vraiment envie d'aller à minima sur le podium.
À la fin. En fin de saison.
Non.
Tout de suite.
Tout de suite.
Et alors justement, c'est intéressant parce que dans votre équipe, vous avez 4 coureurs, 2 coureuses et 2 coureurs. Et notamment, je discutais avec Knut, bon, le Norvégien, et lui, il me dit, mais non, mais moi, Origine, en Norvège, la notoriété de la marque Origine, elle est zéro, peanuts, rien que dalle. Et même lui qui courait sur une autre marque, il connaissait pas la marque. Pour le convaincre, c'est, tu sais quoi, monte sur le vélo, puis tu décides après.
Il y a une histoire d'humain aussi derrière.
Ouais.
Il y a une histoire d'humain, c'est-à-dire que Maxime, avec sa carrière de plus de 20 ans au plus haut niveau et ses nombreux podiums, forcément, quand il monte une équipe, ça inspire la confiance et ça fait parler. Moi, ça fait quelque temps aussi que je travaille dans ce milieu-là. Je pense que humainement, on a su convaincre aussi les pilotes de venir avec nous. On leur proposait un projet de performance, c'est ce qui leur a plu.
Et c'est ce que disait tout à l'heure, justement, ce que vous disiez tout à l'heure à la conférence de presse, Knut, il se tirait la bourre. Ils se tiraient la bourre tous les deux et
ça a créé des liens.
Ouais, ça a créé des liens. Parce que votre partenaire, vous êtes deux team managers, pareil d'ailleurs. Ça, comment est-ce que vous répartissez les rôles entre l'un et l'autre?
Il y a quelque chose qui se fait assez naturellement. C'est-à-dire que d'un point de vue sportif, Maxime a d'énormes connaissances. Moi, comme on l'a dit au début, juriste de formation, on va dire sur tout le côté administratif, je m'en sors pas trop mal.
Ouais. Vous êtes le rigoureux de la bande?
Il est très rigoureux aussi. on va pas dire ça. Mais non, ça répartit déjà les tâches de manière assez naturelle.
Ouais.
Et pour le moment, on a tellement de choses à mener de front qu'on se les répartit un peu, je vais pas dire comme on peut, mais en fonction du timing de chacun.
Ouais, ouais. On est sur un marché du vélo qui est quand même morose, on pourrait presque même dire merdique, hein, on peut le dire au micro ici. Le gravel en 2023 était le seul segment à être positif. Le retour du VTT, il passe par une Coupe du Monde qui est repensée?
Très bonne question. Je pense que la Coupe du Monde reste assez attractive pour le moment. Quand on voit, moi j'ai 2-3 chiffres qui me viennent en tête, la présence de presque 180 000 personnes sur un week-end au G de la Coupe du Monde, des championnats du monde en 2022, je crois, ouais. Ça me paraît quand même assez énorme.
Ouais, c'est un gros, ouais, c'est un
gros
chiffre.
Pour moi, le format reste très attractif. Après, le marché est quelque chose d'un peu différent. Mais pour moi, ça reste quand même une discipline super spectaculaire, qui est facile à regarder. Ouais. Et après, on peut toujours faire des améliorations sur tous les points.
Justement, le Tour vient d'être acheté par Warner Bros, hein, c'est ça. Est-ce que vous étiez, vous, alors même si c'était pas du cross-country, c'était de l'enduro, vous avez déjà vu, ils ont posé leurs pattes et ils ont posé leurs conditions pour que le sport devienne plus télévisuel, plus attractif, plus intense, plus de duels, etc. Vous avez déjà vu une différence?
Il y a une évolution, on va dire, constante. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, à chaque course, mais on sent quand même qu'il y a eu un avant et un après, on va dire.
Ouais.
Après, Rome s'est pas faite en un jour. C'est des choses qui se font pas du jour au lendemain. Et pour gagner en attractivité, voilà, on essaye des choses chaque année, on les valide ou pas avec Warner Bros. Donc il y a vraiment un travail qui est fait tous ensemble, qui est hyper intéressant. Et je pense qu'à terme, ça va payer.
Et ça va relancer, à votre avis, le marché du VTT parce que le marché du VTT, ce que vous disiez à l'instant, 180 000 spectateurs au jet, il n'y a pas beaucoup de compétitions de vélo qui rassemblent, en tout cas sur un week-end, autant de monde.
Oui, ça, je suis d'accord. Après, on a quand même vécu une période très particulière, hein, entre toutes les questions liées à la pandémie, l'accroissement du marché ensuite, les problématiques après ça. Voilà, tout est forcément un petit peu connecté à ce niveau-là, ouais. Mais moi j'ai confiance dans le marché du vélo et je pense que ça va se redresser petit à petit.
On est sur Cause Commune, c'est Rayon Libre. Je reçois aujourd'hui donc l'un des deux managers de la team Origine de VTT. Alors on n'est pas en train d'enterrer le gravel, mais plutôt de déterrer le VTT. On va s'écouter Julius 2 de STH, on va s'écouter Fantôme featuring Laura, Luciano et Jules. Ça va envoyer du bois, comme les pilotes d'Origine, en 2025. On se retrouve dans 3 minutes.
Chargé plein joueur comme dans The Wire. Et mes soldats sont riches mais ils ont pas de médailles. Si on te cherche, sûr tu vas vivre ailleurs. Foutu volant, tu guidons. Et quelques contacts albanais. Vois ta gant, RS3 1143 Marseille, calibré, mal garé. Y'a la merde synthétique, y'a celle de Reptom. JVL, IVS, flingue dans le péplum. Vers la sapule à prison avant les élections. Shit en capsule, passe au béton. Sacoche haute poteau, la crosse touche le menton. Des gilets, des guitares, des glocks, des pitons. Ça veut garer le million, sa mère Louis Vuitton. Noir, blanc, arabe, feuge, corse et gitan. Pas d'ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Julie Lesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mon sauce. 2,40 quand on monte d'Espagne. Pas d'ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Julie Lesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mon sauce. 2,40 quand on monte d'Espagne.
Enfuite sur la recette, tu sais que c'est de la récée. File-nous la recette, c'est bientôt la récée. Tu veux rabaisser, pas d'ABS, c'est l'ABC. Canoncier, vitre baissée, c'est l'ABC. Y'a pas de voleur ici, que des gens dans le besoin. Tout ce qui a ta valeur ici ne peut pas s'acheter le zin. Frère en or, affaire en or, autant au sud qu'au nord. Ça recherche l'oseille fort comme si c'était Sarah Connor. La mort attend au tournant, la part de Béné. Qui a le choix, les tourments. Tout va Béné, pour un oui, pour un non. Balle perce Béné, prêt à tout pour se faire un an. Pas besoin d'être à Béné, on te donne même pas l'heure. Sur le terrain, aucun surhomme. Notre amour n'est pas l'heure, Karachnik, on va sur Rome. La tête est dans la maille, on pleura dans la masse. Et si tu parles mal, tu finiras dans la mal.
Gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Julie Lesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est...
Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm, deuxième partie de Rayon Libre. J'ai en face de moi Mathieu Durand qui est l'un des deux team managers de cette équipe Origine qui est en train d'arriver dans le circuit World Tour de Cross Country. Mathieu, tes pilotes c'est qui?
Il y en a quatre.
Ouais.
On a deux garçons, deux filles.
Ouais.
Les deux filles, c'est Martina Berta, qui est italienne,
ouais,
et Ronja Abel, allemande. Et chez les garçons, on a Mathis Azzarou, français, et Knut Rome, qui est norvégien.
Donc il y a un français, et après c'est de l'Europe.
Exactement.
Et est-ce que quand Origine vient vous dire, allez, on monte l'équipe, il vous pose des conditions en vous disant, on veut que des Français, parce que nous, on a une marque qui est très française, ou du Benelux, comment vous recrutez?
C'est vrai qu'il y a toujours un intérêt pour le marché, là, d'être présent là où Origine vend ses vélos,
ouais,
ce qui fait sens. Après, il faut réussir à pondérer ça en trouvant des pilotes talentueux sur les marchés recherchés, c'est
ouais,
pas toujours possible.
Ouais.
On avait quand même cette vocation d'être international, entre guillemets,
ouais,
et c'est pour ça qu'on a cherché des pilotes un petit peu hors de France pour être à même de faire rayonner la marque, mais aussi l'ensemble de nos partenaires qui sont présents sur le vélo. De manière plus internationale.
Alors ça c'est intéressant aussi, vous parlez des partenaires, on parlait tout à l'heure de matos et de matériel, donc est-ce que c'est un VTT de série d'ailleurs sur lesquels vos pilotes vont rouler?
Tout à fait, il y a juste la partie des suspensions connectées qui n'est pas forcément encore sortie par SunTour.
Oui, c'est quoi des suspensions connectées?
Alors des suspensions connectées, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous avez tous connu la petite gâchette sur votre guidon pour bloquer ou débloquer votre suspension.
Ceux qui font du VTT, oui.
Voilà.
Ou celle d'ailleurs.
Et là, en fait, c'est simple, vous n'avez même plus à penser à bloquer ou débloquer vos suspensions, c'est-à-dire que va y avoir...
Un petit moteur.
Exactement, un petit cerveau dans vos suspensions qui vont à la fois lire le terrain sur lequel vous êtes,
l'inclinaison
de la pente, voilà, et qui va bloquer automatiquement vos suspensions si vous êtes sur la route en montée, qui va les raffermir si vous êtes sur un chemin typé gravel en
ouais,
montée où il n'y a pas forcément
ouais,
besoin de suspension, mais qui va les ouvrir, donc les laisser libres. Dès qu'elles vont être sollicitées.
Donc c'est un microprocesseur qui fait des calculs toutes les millisecondes et
tout
qui va
fait,
adapter pour avoir la meilleure adhérence et le meilleur rendement.
Voilà, exactement. Et le but de SunTour, c'est de clairement démocratiser ce système à la majeure partie des vélos qui sont sur le marché. De l'e-bike, du city, du gravel, des choses comme ça.
Et donc là, vous servez de laboratoire.
Exactement.
Et pour aller encore un peu plus loin, pour bien comprendre, donc ça veut dire typiquement, et n'importe qui, même qui n'a pas fait de VTT, il sait bien que quand on est en montée, bah, on charge le cul du vélo et donc il va... Le tact, hein, c'est comme ça que ça s'appelle ?
Tact.
Le tact va raffermir l'arrière et alléger l'avant.
Tout à fait.
Et à l'inverse, quand il y aura dans son dénivelé, il va se rendre compte que le vélo est en descente, il va raffermir l'avant et alléger l'arrière.
Alors il va pas raffermir l'avant parce qu'il faut qu'on
oui,
bénéficie un maximum de la suspension en descente.
Oui.
Donc il faut que la suspension soit à même d'amortir tous les chocs pour garder du grip. Hein. C'est
oui,
toujours ce qu'on cherche.
Oui, de l'adhérence et de la sécurité. Et
tout à fait.
Ouais.
Donc la suspension va s'adapter automatiquement, mais quand on sera à descendre, ce sera tout ouvert, on laissera la suspension travailler au maximum.
Et après, ils vont paramétrer en fonction de la vitesse, en fonction du terrain, en fonction
voilà,
de l'angle, et là vous travaillez avec
eux. Il y a des paramètres
ouais,
différents qu'on peut régler, et c'est ce qui est super intéressant.
Donc vous travaillez avec SunTour, vous travaillez avec qui d'autre comme partenaire? Je pense que c'est intéressant de les citer, parce que un vélo, ce n'est qu'un assemblement de périphériques et de...
Tout à fait, on peut même aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires dans toute l'équipe
ouais,
pour une quantité de produits différents, donc on a c'est simple, hein, Ecoy qui va nous fournir de la tête aux pieds pour tout ce qui est vêtements, casques, lunettes, chaussures.
Oui.
Ensuite,
donc marque française. Oui.
Ensuite on a SunTour pour les suspensions
oui,
qu'on vient de citer.
Marque japonaise avec le siège à Taïwan.
Voilà, tout à fait. On a ensuite TRP
italien?
Non, taïwanais aussi.
Taïwanais et voilà. TRP c'est de la transmission et du frein.
Exactement, transmission frein.
Oui.
Ensuite, on a...
Et là, c'est pareil, vous bossez avec eux comme avec SunTour?
Exactement, il y a beaucoup de développement dessus. Faut savoir que TRP était jusqu'alors très connu pour les freins.
Ouais.
Et il commence à arriver très sérieusement dans la suspension, même plus que très sérieusement.
Dans la suspension?
Non.
Dans la transmission?
Dans la transmission,
ouais,
j'en perds mes mots. Et ça marche très très bien, mais voilà, toutes les marques sont en recherche constante de développement et là, nous, on est là pour les aider.
Et justement, pareil, avec TRP, vous allez travailler sur du développement avec eux sur
Développement avec eux, il y a de l'électronique qui arrive aussi dans la
ouais,
transmission,
forcément.
donc voilà, il y a beaucoup de développement.
D'accord.
Et après, on a Envy pour les roues, Michelin pour les pneus, Prologo pour les selles, Look pour les pédales.
Oui.
J'espère ne pas en oublier.
Faudrait regarder votre sweatshirt.
Après, on a Monkey Sauce pour tout ce qui est produits d'entretien, NAC pour la nutrition, Five Ends pour les vêtements casual,
ouais.
Et Vertical pour les tiges de sel. Et voilà, je pense à
l'enfer. Vous avez fait le tour. Donc, ça veut dire que vous aussi, votre boulot à vous deux, ça va être en tant que team manager, ça va être de créer du contenu, de communiquer avec les différents interlocuteurs des marques et de faire en sorte que la sauce prenne.
Tout à fait, parce que faire de la compétition, c'est très bien, mais faut-il encore être visible ?
Oui, gagner, c'est bien, mais c'est encore mieux quand les autres le savent.
Voilà, exactement.
Ouais. Donc, vous m'avez dit, je vous ai posé la question, comment on choisit les pilotes ? L'autre question, c'est comment on pilote les pilotes ?
Ça, c'est une excellente question aussi. Chaque pilote est différent à piloter, comme, ouais. Comme un vélo.
Oui.
Voilà, parce que chacun peut avoir ses problématiques, chacun peut avoir ses certitudes, sa confiance à un instant T. Donc là, on est vraiment de la gestion humaine au cordeau, et vraiment, voilà, c'est gérer la confiance d'un pilote, sa forme physique, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont.
Et son entraînement aussi, ça veut dire qu'il y a vous êtes équipe, enfin vous êtes deux, mais ça veut dire vous allez avoir un suivi médical, monter en charge aussi en termes physiques.
Voilà, alors on a un suivi médical sur tout le long de la saison pour ouais. être sûr, voilà, qu'on n'y ait pas de soucis de carence, de problèmes de tout ce côté-là.
Est-ce qu'on est dans un sport où les pilotes, l'alimentation, la nutrition, elle est aussi importante, je dirais, que allez, l'imaginaire qu'on peut avoir, en tout cas du Tour de France, c'est au grain de riz près.
Elle l'est, c'est le carburant, c'est le carburant, donc...
C'est les gains marginaux.
Bah clairement,
ouais.
clairement là-dessus, ce que votre corps ingère, c'est ce qui va vous permettre derrière de délivrer la meilleure performance. Ouais. Donc voilà, tout en...
Et donc ça veut dire que vous, en tant que team manager, vos quatre pilotes, vous allez leur dire ton programme nutritionnel c'est ça, ton programme de course c'est ça et ton programme d'entraînement c'est ça ?
Alors on va pas jusque là parce que les pilotes ont chacun leur entraîneur personnel avec lequel ils ont l'habitude de travailler.
Et c'est le pilote qui paye son entraîneur personnel ?
Oui.
Ok.
Nous, derrière, on est là pour assurer une sorte de gestion globale plus de ce côté-là.
Ouais.
Voilà, on est en discussion chaque fois avec les entraîneurs, ces choses-là. En termes de nutrition, il faut savoir que les pilotes de cross sont hyper bien éduqués là-dessus. Dès le plus jeune âge, ils sont aussi super proactifs dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui savent exactement ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ont besoin, d'éventuelles intolérances, de choses comme ça. Mmh. Et ils ont sûrement une excellente connaissance de leur corps. Et
ça, alors vous êtes sur le circuit depuis un moment, vous, hein, en tant que team manager ou agent. Est-ce que vous avez vu cette évolution, notamment de tout ce qui est gestion de la data du coureur, et parce que Look aussi, ils vous fournissent le capteur de puissance. Vous avez vu ça arriver et évoluer grandement, là, en 5-10 ans ?
Oui, on parle pas que de la data en termes de puissance, hein. On essaye en fait, le sport est tellement incertain,
ouais.
On essaye d'avoir un maximum de données, aussi bien chiffrées que concrètes.
Ouais.
C'est ce qui va nous permettre derrière de réussir à prendre des décisions vers telle ou telle direction, aussi bien sur du choix de matériel que sur la majeure partie des choix qu'on va faire.
Si je fais un peu de prospective, une journée type pour vous, là, quand la saison commence, ça ressemble à quoi ?
Ça va dépendre si on est au bureau ou sur les courses.
Alors, une journée type au bureau ?
Une journée type au bureau, il y a pas mal de choses à faire. Là, en ce moment, on est en train de, comme on a dit, on partait de zéro.
Ouais.
Donc, il y a quand même une grande partie où on travaille en collaboration avec Origine sur le design. Il y a toute la commande du matériel, mettre en place le paddock.
Oui.
C'est-à-dire commander le paddock, qu'est-ce qu'on veut comme paddock, quelle
couleur. Le paddock, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire le stand, en fait.
Voilà,
si on allait sur un salon type le Roc d'Azur, voilà. Un paddock, c'est ça.
C'est ça, c'est ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va mettre sous le paddock ?
Ouais.
Les chaises, les tables, qu'est-ce qu'on a besoin ? Voilà, il y a des quantités de choses à penser. Et en ce moment, vu qu'on est dans la construction, c'est surtout ça qui nous occupe.
Et puis aussi, ça veut dire, parce que ça peut paraître anecdotique, mais c'est aussi toute l'image de la team qui est en jeu derrière.
Exactement.
Et puis le confort de vos pilotes.
L'image de la team, le confort des pilotes. Il y a une question de performance aussi là-dedans.
Ouais.
Parce que voilà, imaginons qu'on se retrouve sur une course, il fait super froid, faut un endroit où il puisse se mettre au chaud, tout
ouais.
simplement.
Ouais.
Donc ça passe par là.
Et une journée type pour vous quand vous êtes sur une course, ça ressemble à quoi ? Sur une étape plutôt ?
Sur une étape, souvent, si on prend la course du dimanche, ça va être réussir principalement à mettre les pilotes dans les meilleures conditions possibles.
Ouais.
Donc s'assurer avec les mécanos que tout va bien.
Est-ce que ça veut dire les biberonner ? Est-ce que ça veut dire en prendre soin et les bichonner ?
Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, on peut être là-dessus. Il y a aussi beaucoup de gestion humaine sur de la mise en confiance, discuter avec eux. Et surtout, voilà, il y en a qui vont être plus dans leur bulle, d'autres qui ont plus besoin de support.
Et donc, il faut les respecter, les comprendre.
Voilà, tout à fait. Être à l'écoute.
Qu'est-ce que vous préférez, vous, à titre perso, là, je m'adresse à vous, l'homme, l'être humain, qu'est-ce que vous préférez, à titre perso, dans le métier que vous exercez aujourd'hui, que vous allez continuer à exercer dans cette team origine? L'humain, la logistique, l'objectif, les relations avec les partenaires, c'est quoi que vous préférez ?
Moi, clairement, c'est l'humain, de loin. C'est-à-dire que quand vous avez un de vos pilotes qui gagne une course, que les larmes de joie vous viennent à la fin de la journée, il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer ça. Hein.
Ouais. Et puis ça fait oublier toutes les douleurs d'avant et toutes les peines. Ouais.
Mais c'est tellement une sensation folle que... On s'en lasse pas.
Une dernière question et après on lance la chronique d'Abel. Il y a une étape à Marseille bientôt.
Tout à fait, mi-mars.
Mi-mars, des dates exactes. C'est quoi les dates ? Vous avez le temps de la chronique d'Abel Guggenheim pour les retrouver les dates de Marseille. Alors s'il y en a un qui n'a pas besoin d'être piloté, c'est Abel Guggenheim. Toutes les semaines, il trouve l'inspiration pour vous proposer un sujet, une chronique. On s'écoute Abel et je vous dis à tout de suite.
Bonjour. Il a beaucoup été question ces derniers temps, et je m'en suis fait l'écho ici, des conflits entre cyclistes et piétons. Ceux entre cyclistes et autobus ont récemment plusieurs fois été abordés. C'est un sujet complexe, rendu encore plus difficile par une différence de perception entre usagers. Les cyclistes vivent à juste titre comme des faibles par rapport au fort qu'est l'autobus, mais ils et elles ont parfois du mal à comprendre qu'un bon nombre des usagers des bus, en particulier celles et ceux qui l'utilisent par difficulté ou même impossibilité de prendre le métro, se vivent également à juste titre comme les faibles par rapport aux cyclistes. Il y a aussi des événements, la COVID a boosté le vélo en même temps qu'elle décourageait l'usage des transports collectifs, dont bien sûr les autobus. Sur certains axes en région parisienne, les coronapistes ont pris la place des couloirs bus, ceux-ci étant décalés vers le centre de la chaussée, mais aussi parfois supprimés, soit par manque de largeur des voies, soit par oubli ou négligence. En même temps, beaucoup d'élus, auparavant sceptiques ou au moins timides sur la pertinence du vélo comme mode de déplacement, semblent soudain avoir été touchés par la grâce et découvrir cet objet magique. En même temps qu'il apparaissait dans l'agenda des politiques, le vélo semble souvent y être rapidement monté tout en haut. Divine surprise pour un militant comme moi, engagé depuis de nombreuses années dans le difficile combat pour faire prendre en compte l'intérêt du vélo pour la collective évité comme pour les individus. Mais étant depuis longtemps aussi un partisan actif et déterminé des transports en commun, je ne peux manquer de regretter que cette prise en compte du vélo se soit parfois faite au détriment de la circulation des autobus. C'est précisément la question qui est mise en avant depuis quelque temps, relayée récemment à plusieurs reprises par un journaliste du Figaro, François de Lettraze, dont j'avais il y a déjà quelque temps dénoncé avec d'autres des comptages inexacts d'usagers de la bicyclette et de l'autobus sur la rue de Rivoli, le nombre des usagers des bus n'étant pas celui sur la rue de Rivoli, mais sur l'ensemble de chaque ligne, comprenant donc des personnes circulant à un tout autre endroit de Paris ou même de banlieue. Ce journaliste est ensuite devenu, dans des circonstances que je ne suis pas parvenu à élucider, président de la FNOT, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Il a alors republié des comptages inexacts de cyclistes et d'usagers des bus sur la rue de Rivoli et a tout récemment récidivé en affirmant que des couloirs bus ont été supprimés au profit d'aménagements cyclables à Paris, citant le boulevard Voltaire, l'avenue de Saint-Ouen, la rue Blanche et la rue de Clichy. Un cycliste militant lui a répondu sur le réseau X en expliquant que ces affirmations étaient des mensonges. J'ai bien sûr vérifié ces affirmations divergentes et j'ai constaté que, sans doute emportés par leurs convictions respectives, ces deux combattants virtuels mentent ou se trompent tous les deux. Je détaillerai lundi prochain ce qui est vrai et ce qui est faux et je tenterai d'aller plus loin en montrant que le kilométrage de couloir bus n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. À lundi prochain.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Alors avant de conclure cette émission, on a deux questions. La première, c'est quelles sont les dates de l'étape du Tour mondial à Marseille ?
Alors Marseille sera une Coupe de France.
Coupe de France.
On n'est pas sur le Tour mondial. Ce sera du 14 au 16 mars. Et si vous voulez venir nous voir sur une étape de Coupe du Monde en France, ce sera Auger. Le 22 et le 24 août.
Et ben voilà, notez tout ça dans votre agenda et organisez vos vacances au mois d'août autour des jets. Merci à vous. Et une dernière question, le vélo de la team, je peux me le configurer en mode réplica ou pas ?
à voir avec Origine, mais tout le monde y travaille.
Tout le monde y travaille, super. Merci à Mathieu Durand d'être venu nous parler de cette équipe. Vous pouvez tous enfourcher votre vélo, peu importe pourquoi vous pédalez, sur quoi vous pédalez. N'oubliez pas, une journée sans pédaler, de toute façon une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine, restez sur 93.fm, Cause Commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires, et à la semaine prochaine.